Donc, de retour pour analyser donc cet interrogatoire d'Alexandre Bissonnette dans les heures qui ont suivi son crime. On est en compagnie toujours de l'ex-juge Nicole Gibault et de Jean-François Brochu, qui a été longtemps au crime contre la personne à la Sûreté du Québec. Jean-François Brochu, comment vous réagissez à cet interrogatoire? Vous en avez fait, là? Vous savez c'est quoi, là?
Ben, oui, c'est un interrogatoire, en somme toute, bien ordinaire,
classique.
Bien classique, oui, effectivement, dans les règles de l'art, mené dans les règles de l'art par le sergent Girard. Il faut savoir que les enquêteurs au crime contre la personne ne font pas tous des interrogatoires de meurtre. Les enquêteurs qui font ça, d'abord, ils doivent vouloir le faire et avoir le goût de le faire, parce que c'est quelque chose d'extrêmement stressant, et il y a beaucoup, ça a beaucoup d'impact sur la qualité de l'enquête, sur le résultat de l'enquête.
C'est stressant, justement, parce que ça peut déterminer l'issue du procès, à la rigueur, non?
Ben, effectivement, dans certains cas, la preuve ne repose que sur les aveux. Alors, quand tu n'en as pas obtenu, c'est un constat d'échec pour l'enquêteur. Mais dans ce cas-ci, on le voit qu'il y en a. Et les grandes questions là, que son chef d'équipe et que l'organisation lui a demandé dans la préparation à Girard, les grandes questions, c'était d'abord établir le qui. Alors, est-ce que c'est toi qui as commis le crime ou est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre? Il faut établir s'il y a quelqu'un dehors qui a participé, par exemple, à la planification. Alors, l'enquêteur veut savoir ça. Alors, qui a commis le crime? Comment il l'a commis? C'est-à-dire, et dans le comment, on va aller chercher les éléments de planification s'il y en a. Bien, il y en a dans ce cas-ci, mais on veut les connaître. Dans tous les crimes, on veut connaître s'il y a des éléments de planification et quels sont-ils. Et ça va aider, justement, éventuellement au procès à se faire une idée sur du niveau des accusations, de quel type d'accusation on va porter. Et finalement, quand on a une collaboration comme ici, quand on a quelqu'un qui accepte d'interagir avec l'enquêteur, bien sûr, on va demander à l'enquêteur d'aller chercher le pourquoi. Alors, c'est de là les questions sur Trump et compagnie. On va aller chercher sa motivation. Et il faut savoir qu'en cours d'interrogatoire, c'est quand même pas un long interrogatoire. C'est un interrogatoire qui a duré à peu près 3h30 au total, si on inclut les pauses.
Ça, c'est pas long, ça, 3h30?
En fait, l'interrogatoire, le minimum qu'on se donne, c'est 4h.
Alors, minimum, c'est 4 heures.
Dans certains cas, ça dure 2 heures. Mais je veux dire, si avec quelqu'un de difficile, on va se donner un minimum de 4 à 5 heures. Mais un interrogatoire de 3 heures et demie, comme celui-là, c'est tout à fait pas long. On va dire ça comme ça, là, c'est pas long.
Parce qu'il s'est mis à table.
Parce qu'il s'est mis à table après avoir réfléchi. Ben, c'est bien sûr, il a contacté son avocat. Il faut s'assurer de ça. Hein. L'enquêteur doit s'assurer également que la personne qui est devant lui est en connaissance de cause quand elle lui parle, qu'elle sait l'impact que ses paroles peuvent avoir sur, par exemple, des aveux. Alors, il faut s'assurer qu'il a bien communiqué avec un avocat et qu'il connaît, il sait ce que son avocat lui a dit et qu'il est conscient. Il faut voir que, parce que ces aveux-là peuvent éventuellement, effectivement, être mis en preuve et donc il faut qu'ils aient été obtenus de façon libre et volontaire et en toute connaissance de cause. Ça fait partie du travail de l'enquêteur d'établir ça sur la cassette, entre guillemets, là, sur le disque dur.
Est-ce que c'est normal qu'ils ne se souviennent pas?
Oui, tout à fait. On voit ça souvent dans les cas de colère qui montent tellement haut. Puis ça, il faudra parler au psychiatre de ce phénomène-là. On l'a déjà entendu souvent à la cour, là. Mais oui, c'est normal qu'ils ne se souviennent pas des détails parce que le niveau de stress est tellement important lorsqu'ils passent à l'acte. Le niveau de la vision tunnel est tellement importante et c'est normal aussi, par exemple, qu'ils ne se souviennent pas que quelqu'un ait tenté de l'empêcher de l'arrêter. C'est pas surprenant que ça. On voit ça souvent. Dans les cas d'homicide, on voit ça souvent.
Nicole Gibault, ex-juge, en tout cas, on cherchait l'intention, là, on l'a.
Oui, puis hein? c'est important ce que Jean-François vient de dire, puis avant le droit à l'avocat, c'est surtout le droit au silence, et ça, tout le monde sait qu'un accusé n'est pas obligé dans aucune circonstance de parler, puis il aurait pu ne pas parler, et il a sûrement été informé à cet effet-là, ça, Jean-François pourra vous le confirmer. Mais puis son droit à l'avocat également, parce que c'est sûr qu'au début, comme ça, c'est en préparation d'un procès. On ne sait pas qui va plaider coupable. Là. C'est en préparation d'un procès. Et combien de fois, rendu en bout de ligne, on s'aperçoit qu'il manquait un chaînon dans toute cette preuve-là, et c'est souvent là, et Jean-François a raison là-dessus, ou peut-être dans un autre élément de preuve, et où un procès peut complètement tomber. Là. Alors, c'était d'une importance capitale. capable d'avoir le doigté avec lequel on voit que M. Girard a fait cet interrogatoire.
Là, essaye de nous amener un petit peu dans la tête du juge, Nicole, okay, que tu as déjà été. Quand il dit, dans le fond, moi, j'ai fait ça pour protéger ma famille, pour protéger mes parents, j'étais convaincu qu'il allait se faire attaquer. Il dit ouvertement que les attentats terroristes l'ont motivé, l'ont incité. Et là, il dit, dans le fond, j'ai voulu sauver des gens. J'ai sauvé peut-être 100, 200, 300 personnes. Je veux dire, il est complètement dans le délire. Mais c'est très clair, là qu'il vise les musulmans parce que, dit-il, dans le fond, il fait une équation entre musulmans et terrorisme. Alors, le juge qui entend ça, est-ce que ça l'amène à être plus sévère dans la peine qu'il pourrait éventuellement infliger?
Ça va complètement être un exercice de pondération parce que on restera pas là et on s'attend à ce qu'il va y avoir des gens professionnels de la santé parce que vous l'avez très, très bien dit, Bernard, le délire, la paranoïa, le problème de santé mentale, oui, c'est important lors des représentations sur sentence et oui, on le prend en considération. Il faut pas que tout le monde pense que c'est parce qu'on essaie d'invoquer ça. Là, on est au lendemain et c'est dans l'immédiat, là. On est dans l'immédiat d'une situation, là. Il n'y a pas eu des semaines et des jours et des pleins d'avocats et pleins de psychiatres qui lui ont parlé, là. On est dans tu sais, c'est rapide, là. Alors, c'est extrêmement important. Quand je disais tantôt, l'avant, le pendant et l'après, les circonstances qui entourent tout ça, ce sont tous des éléments qui sont d'une importance capitale pour prendre une décision en matière de détermination de la peine. Et on ne peut pas laisser rien de côté. Là. On est mieux d'en avoir plus que moins. Et oui, c'est sûr que ça peut avoir un effet sur la sentence. Le fait qu'il est en délire, en paranoïa, même si c'était à l'encontre d'un groupe ethnique quelconque, même si cette paranoïa-là, qui est évidemment non fondée pour tout le monde, on le comprend, mais lui, ça l'était. Et pourquoi, on le saura sûrement par des experts en psychiatrie.
Jean-François.
Bien, c'est ça, c'est que le fait pour nous de pouvoir entendre, pour le public, de pouvoir entendre deux choses, et l'enregistrement 911, et cet interrogatoire-là donne une perspective, à mon sens, complètement différente de cet événement-là qu'on a connu il y a un an. Mmh. C'est un événement, on peut penser que c'est un monstre, c'est un individu terriblement violent avec plein de motivation, mais on voit dans le fond qui est Bissonnette. C'est surprenant qu'un individu, somme toute, très ordinaire comme lui, puisse avoir commis un geste comme ça. Et c'est souvent ça dans les cas d'homicide. Et c'est pour ça que c'est important que les juges, que tu sais, il y a le public qui regarde l'événement de l'extérieur, puis qui se fait une opinion. Mais quand on est à l'intérieur d'un événement comme là, qu'on a accès à toute la preuve, oui, dont l'interrogatoire en vidéo et l'appel 911, la perspective est différente quant à la façon de voir cet individu-là.
Mais c'est ça, mais c'est Nicole, c'est ce qui rend l'affaire encore plus effrayante. C'est que tu vois dans le fond que c'est un petit gars qui est habité par des peurs qui sont complètement infondées, là. Je veux dire, avoir peur que les Syriens, les réfugiés syriens débarquent puis viennent tuer ses parents. Tu te dis, voyons donc. Puis tu vois qu'il parle de ses médicaments. Donc là, tu sais, veux pas, tu te poses la question, peut-tu y avoir un lien entre son dérapage puis le changement de médicamentation qu'il a eu à un moment donné? Tu sais, j'imagine que ça passe dans la tête du juge aussi, ces questions-là. Si on se la pose, nous, il va se la poser lui aussi, hein?
Ah, bien, c'est certain. C'est pour ça qu'on le met en preuve. Puis la couronne ne cache rien, là. Ils n'ont pas l'intention d'y... On joue pas à cache-cache, là. On donne tous les éléments. Et là, c'est sûr qu'on s'attarde à M. Bissonnette. C'est évident parce qu'on commence par ça. Mais ça va être une autre perspective la semaine prochaine parce que ça sera plus, là, on va comprendre autre chose par les victimes qui va... C'est la pondération, l'équilibre, là, et ne pas vouloir imposer des sentences de vengeance. C'est tellement un cas, je le sais, là, ça empêchait de mes collègues, moi, ça m'a déjà empêché de dormir.
Une responsabilité incroyable sur laquelle qu'il a sur ses épaules le juge, parce que là, d'autant plus que là, c'est tous les citoyens
Ah, puis il ne rendra pas de décision pour plaire. C'est pas sa fonction. Ce n'est pas notre fonction. C'est une décision qui va être individualisée à M. Bissonnette dans les circonstances d'un crime odieux avec des familles et des victimes qui sont marquées à jamais, une communauté à jamais, mais tout en gardant et en focusant. Puis c'est ça qui empêche quasiment de dormir, là. C'est qu'on veut le faire en toute sérénité et c'est pour ça qu'on est là, puis qu'on espère que si on se trompe, ben il y a des cours d'appel, mais on fait notre travail au front, là, comme ça. Il faut entendre toute cette preuve-là, même difficile.
Donc, dans les prochains jours, on va avoir les victimes qui vont venir témoigner et par la suite, donc, il va prendre tout ça en délibéré. On peut s'attendre à une décision dans combien de semaines ou de mois, Nicole?
Là, je vais vous dire qu'on a d'abord entendu, et je pense qu'il n'y aura pas de presse, parce qu'on sait là, qu'il est emprisonné à vie, point à la ligne, et il y aura une requête qui va être présentée pour attaquer la constitutionnalité de cette peine cumulative potentielle de 150 ans. Et donc, il n'y a pas vraiment de presse. Il n'y a pas personne qui est à la course à l'horloge ici. Là. Et je vais vous avouer que je pense que je prendrais vraiment mon temps là, dans les circonstances. C'est comme je vous dis, il est emprisonné à vie. Et un minimum certain de 25 ans, ça on le sait. Il ne peut pas aller en bas de ça. Donc, il y a du temps pour se pencher sur cette décision-là qui va être historique. Alors, je pense que c'est une grande réflexion. Alors, moi je m'attends pas à ce qu'il soit pressé. Surtout comme on sait là, qu'il va y avoir une requête pour déclarer inconstitutionnelle la peine cumulative. Là.
Nicole Gibault, juge à la retraite. Merci beaucoup, Nicole Gibault.
Merci.
Jean-François Brochu, expert en affaires policières. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Bienvenue.
On s'arrête, le public, on prend notre souffle et on va changer complètement d'univers. Là. On va s'en aller avec Gildor au retour de la pause pour parler sport et société. À tout de suite.